matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe 1 une nouvelle fois ce matin pour commencer votre journée. J'espère que vous allez bien. Nous, on est en pleine forme.
Oui, oh, oui bonjour.
Oui. Ah, bah oui, vous êtes en pleine forme, oui. Je le vois. Oui. Martin Lange aussi.
Également en
pas
pleine forme.
Pas beaucoup dormi.
Bonjour, Sébastien.
Vous n'êtes pas trop triste?
Oh, ça va, ça va.
Vous avez regardé le match?
Oui, effectivement.
Voilà. Le PSG éliminé de la Ligue des Champions par Manchester City. On va y revenir, bien sûr, dans le journal des sports. Mercredi 5 mai, voilà une date qui marque un bicentenaire aujourd'hui. Bicentenaire qui fait beaucoup parler, celui de la mort de Napoléon. Faut-il commémorer l'empereur? La question est à la une. Emmanuel Macron va prononcer un discours aujourd'hui. Alors, Napoléon, il y a ce qu'on sait, les grandes batailles, le code civil, le rétablissement de l'esclavage. On va mettre un peu tout ça de côté, on va vous faire découvrir ce matin d'autres facettes de Napoléon. C'est l'objet d'un podcast Europe 1 que vous trouvez déjà sur europe1.fr. Podcast conçu et raconté par Laure d'Autriche qui sera avec nous tout à l'heure à 6h40. Et vous allez voir, on apprend plein de choses, notamment sur le bac. Le bac, c'est aussi une création de Napoléon.
Les études au lycée sont payantes. Par conséquent, nécessité de moyens fait que le baccalauréat ne s'adresse pas à tous.
Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue.
Ouais, le bac était payant à l'époque de Napoléon. Ça n'a rien à voir avec le bac d'aujourd'hui. Laure d'Autriche va nous raconter tout ça. Et vous voyez un petit peu ce podcast mise en scène, mise en onde par Sébastien Guidiz, raconté par Laure d'Autriche, qui sera donc avec nous à 6h40. Martin, qu'est-ce que vous avez repéré, vous, ce matin?
Eh bien, un jeune agriculteur qui dépoussière son métier sur TikTok, en musique, mais aussi avec sérieux. Et ça marche, déjà près de 200 000 followers.
Ouais, et on parlera aussi des jeunes agriculteurs qui sont si importants pour reprendre le flambeau et s'installer avec Fanny Agostini tout à l'heure à 5h50. Amblin, qu'est-ce qu'on écoute ce matin?
À l'âge de 21 ans, elle a secoué la planète rock, s'est produite dans le monde entier avec pour quelques dates Radiohead en ouverture. Est-ce que vous faites partie des 33 millions de personnes qui possèdent son CD depuis 1995? Moi, oui. It's like rain.
Vous l'avez reconnu? Alanis Morissette.
Ah bah oui.
Bien sûr.
Bah et oui. Fabrice Lafitte aussi, là, le CD.
Alors moi, je l'avais pas. Le CD, il n'y avait pas de CD à l'époque, c'était des cassettes.
Mais non, on est en 95, vous rigolez? Et des CD, je vous l'apporterai.
Bon,
je ferai une copie.
Mais je l'ai beaucoup écouté quand même. La partition à 6h20. À tout à l'heure, Amblin Roche. Le reste du programme ce matin, la vaccination qui accélère. Mais comment éviter que les plus précaires restent sur le bord du chemin, faute par exemple d'avoir accès à Internet ou de savoir utiliser les différentes plateformes pour prendre rendez-vous? Vous. C'est l'alerte que lance Pascal Brice qui sera avec nous à 5h40. Il préside la Fédération des acteurs de la solidarité. Et puis mon invitée inattendue, elle a fait son entrée dans le dictionnaire. Elle nous racontera ce que ça fait d'être dans le dico à 6h15. Bonjour Laurent Cabrol.
Eh bien bonjour Sébastien, bonjour à tous. La pluie s'en va. Elle nous quitte par le sud, elle nous quitte par le sud-ouest, par le sud du Massif central. La région Rhône-Alpes est encore touchée, mais enfin, toutes ces régions seront sous quelques éclaircies, même de belles éclaircies parfois, dans le courant de l'après-midi. De sorte que, vraiment, nous sommes dans une journée sans pluie pratiquement, en sachant que celles qui sont encore là, eh bien, vont s'en aller. Voilà, les températures s'échelonneront dans le courant de l'après-midi entre 14 et 20 degrés. Ce sera une moyenne nationale quand même en hausse.
Allez, à tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Voici votre premier journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Il est 5h sur Europe 1.
Il est sur Paris, dans un EHPAD privé. Il paye très très cher et il n'a pas encore pu sortir sur le parvis du Champ de Mars où il allait régulièrement auparavant. Et il est vacciné.
Les droits fondamentaux sont-ils bafoués dans les EHPAD? Question posée alors que la défenseur des droits a reçu plus de 200 saisines sur la question du fait des restrictions sanitaires. 200 ans après sa mort, Napoléon, figure majeure et controversée. En lui rendant hommage aujourd'hui, Emmanuel Macron devra jouer avec les succès et la part d'ombre de l'Empire. Et puis Facebook va trancher le cas Donald Trump. Le réseau social avait banni celui qui était encore président des États-Unis. C'était en janvier.
À suivre les sports, la défaite du PSG hier soir, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette, nous serons chez notre poissonnier ce matin. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a 200 ans exactement, 5 mai 1821, disparaissait Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud, très loin de Trafalgar, de Waterloo, mais aussi d'Austerlitz et d'Iéna. Aujourd'hui, c'est un président de la République qui va commémorer l'exercice du pouvoir d'un empereur, Emmanuel Macron, à l'Institut de France et aux Invalides. Jean-Rémy Baudeau, le président, compte bien répondre à ceux qui lui reprochent cet hommage.
Oui, car le souvenir de Napoléon ravive parfois des blessures. Le rétablissement du statut colonial, la place des femmes. La ministre chargée de l'égalité, Elisabeth Moreno, n'a-t-elle pas elle-même récemment critiqué Napoléon comme, je cite, « un grand misogyne qui a rétabli l'esclavage », une position largement répandue, notamment à gauche. Aujourd'hui, dans son discours, Emmanuel Macron prévoit donc de déconstruire la figure de Napoléon. « On ne déboulonne pas, on n'efface pas », explique-t-on à l'Élysée en réponse aux partisans de la « cancel culture ». Il s'agit donc pour le président de garder le meilleur de l'empereur, celui qui a posé les bases de l'État moderne, le code civil, les maires, les préfets, sans pour autant occulter le pire de l'Empire. Il devrait rappeler que le rétablissement de l'esclavage fut, je cite, « une abomination ». Un sujet que le chef de l'État abordera d'ailleurs à nouveau lundi prochain lors des 20 ans de la loi Taubira sur la traite négrière. Aujourd'hui, cette commémoration est à l'image du projet mémoriel d'Emmanuel Macron, revendiquer la complexité de l'histoire et assumer le passé de la France, comme le théorise l'un de ses proches. Il ne faut pas faire porter à notre passé le poids de nos débats présents.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. C'est une alerte que lance la défenseure des droits Claire Hédon sur la situation en EHPAD. Elle a reçu plus de 200 saisines depuis le début de la pandémie.
Les droits fondamentaux des personnes âgées sont bafoués dans plusieurs centaines de maisons de retraite puisqu'on leur refuse le droit de sortir ou de voir leurs proches, Virginie Salmen.
Oui, ce sont des situations déchirantes que Sabrina Deliri recense depuis un an pour son groupe de pression, le Cercle des proches aidants en EHPAD. Elle récolte des histoires et des prénoms.
Le papa d'Olivia n'a pas quitté son EHPAD depuis plus d'un an. Il est sur Paris, dans un EHPAD privé. Il paye très très cher et il n'a pas encore pu sortir sur le parvis du Champ de Mars où il allait régulièrement auparavant. Et il est vacciné. Alors que dans le protocole, il y a marqué qu'un résident vacciné peut sortir quand il le souhaite. Dans beaucoup d'EHPAD, ce n'est pas le cas.
Comment est-ce que les directeurs de ces EHPAD l'expliquent?
Mais ils ne l'expliquent pas. Ils l'imposent.
Pour Pascal Chanvert, représentant des directeurs d'EHPAD de l'ADEPA, il y a un décalage énorme entre les annonces d'assouplissement du gouvernement et ce qui est écrit dans le dernier protocole sanitaire, très ambigu.
Par exemple, il est indiqué, tant que les salariés ne sont pas massivement vaccinés, aucun assouplissement ne pourra être mis en place. Or, on sait qu'aujourd'hui, même si la vaccination des salariés progresse, ils ne sont pas aujourd'hui massivement vaccinés. Donc, cette simple petite phrase peut faire que, tout à fait légalement, des directeurs ne changent rien à la situation antérieure.
Des sénateurs et des députés voudraient inscrire dans la loi un droit opposable aux visites en EHPAD.
Virginie Salmen. Près de 16,5 millions de Français ont désormais reçu une première injection de vaccin. Et depuis le début de la semaine, c'est parti pour le certificat de vaccination. Toutes les personnes ayant reçu des doses contre le Covid reçoivent une attestation. Anne Le Gall, c'est un premier pas en fait vers le pass sanitaire.
Oui, depuis lundi, la vaccination donne droit à un QR code imprimé sur une feuille de papier, code que l'on peut ensuite scanner avec son téléphone pour le stocker dans l'application Tous Anti-Covid. Pour les vaccinés pour qui l'injection est plus ancienne, ce certificat pourra être récupéré sur Internet à partir de la deuxième quinzaine de mai. Alors pour l'instant, ce pass n'est pas encore très utile, mais à partir du 9 juin, il pourra être exigé pour participer à des événements culturels, sportifs ou des salons de plus de 5000 personnes. Par ailleurs, c'est aussi une première étape dans la mise en place du certificat vert numérique voté par le Parlement européen fin avril. Il ne sera pas obligatoire pour partir en vacances cet été, mais il devrait quand même faciliter les déplacements intra-européens.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Après une année 2020 marquée par une baisse record des recrutements, l'année 2021 devrait être celle du rebond.
Oui, léger, mais quand même. Olivier Samin, c'est ce que laisse entrevoir l'enquête annuelle publiée hier par Pôle emploi sur les besoin en main-d'œuvre dans toute la France.
Oui, 2 723 000 projets d'embauche cette année, soit 1,1% de plus qu'en 2019, qui était la dernière année, entre guillemets, normale, pouvant donner lieu de ce fait à comparaison. Voilà ce qui ressort de l'étude menée par Pôle emploi. Les entreprises ont l'intention de recruter, surtout les petites. 2 projets d'embauche sur 3 viennent des PME de moins de 50 salariés. Avec une forte hausse dans la construction, les métiers de la santé, aides-soignants infirmiers, et les métiers de l'aide à domicile. Et à l'opposé, une baisse, qui ne surprendra personne, crise sanitaire oblige, dans l'hôtellerie-restauration, les métiers artistiques et l'animation socioculturelle. Est-ce là aussi un effet de la crise? Les entreprises interrogées par Pôle emploi considèrent qu'elles auront globalement un peu moins de difficultés qu'il y a 2 ans pour mener à bien leur projet de recrutement d'ici à la fin de l'année. Même si, dans certaines spécialités, les employeurs continuent de s'arracher les cheveux en tête des recrutements perçus comme les plus difficiles, charpentiers, couvreurs, aide à domicile, aide ménagère ou encore carrossier, mécanicien et électronicien automobile.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. L'actualité judiciaire avec ce deuxième jour d'audience hier au procès de Nordal Lelandais devant la cour d'assises de la Savoie.
Ce sont d'abord ses ex-compagnes qui ont décrit un homme parfois impulsif et violent. Puis l'ancien maître chien a donné sa version des faits.
C'est bien lui qui a tué Arthur Noyer, mais c'était involontaire, a-t-il répété Jean-Luc Bougeon.
Oui, Lelandais a fait le récit détaillé de cette nuit du 11 au 12 avril 2017 lorsqu'il prend en stop Arthur Noyer. Il décrit un jeune homme ivre et très énervé d'avoir perdu son téléphone portable. Finalement, Lelandais retrouve l'appareil sur le siège de sa voiture et lui tend, mais c'est là que, selon lui, Arthur Noyer se serait emporté, l'accusant de lui avoir volé. Le militaire cherche alors à frapper Lelandais, un coup de poing, puis deux. Lelandais réplique, les deux hommes se battent et soudain, Arthur Noyer tombe en arrière, KO. Il ne bougeait plus, raconte Lelandais, qui tout à coup, dans la salle d'audience, se met à s'adresser à sa victime dont la photo a été posée devant lui par ses parents depuis hier. « Désolé Arthur, je sais que tu es face à moi, désolé pour toute la famille, je sais qu'ils sont très peinés aujourd'hui, mais je dis la vérité, ce dont doute fortement Didier Noyer, le père d'Arthur. »
« Moi je suis désolé que mon fils soit à 6 pieds sous terre. Vous savez, on a coutume de dire chez moi, quand on trinque, on se regarde, quand on cause, on se regarde. J'ai eu le sentiment en tout cas que c'était un regard flou qu'il ne le regardait pas. Mon avocat dit cinéma, théâtre, je pense qu'on est un peu là-dedans. »
Voilà, alors les débats vont se poursuivre aujourd'hui. On entendra les amis d'Arthur Noyer qui raconteront notamment le déroulement de cette dernière soirée arrosée en boîte de nuit.
Jean-Luc Bougeon à Chambéry pour suivre ce procès pour Europe 1.
Donald Trump va-t-il pouvoir faire son retour sur Facebook? Le réseau social avait banni l'ancien président américain au mois de janvier.
Oui, estimant qu'il avait posté des messages ayant incité ses partisans à envahir le Congrès, c'est-à-dire le Parlement des États-Unis. Pour ça, Donald Trump a été banni à vie de Twitter, mais ce n'est pas le cas sur Facebook. On saura donc aujourd'hui à 15h si son compte est réactivé. Une décision prise, Clément Le Saffre, par le Conseil de surveillance de Facebook. Parlez-nous de cette organe dédié à la modération.
Oui, c'est ça, un organe financé par Facebook, mais indépendant dans son fonctionnement. Le conseil de surveillance a été créé l'an dernier pour répondre aux critiques récurrentes sur la politique de modération de Facebook. Sorte de cour suprême du réseau social, il a le pouvoir de trancher les cas les plus sensibles. Le conseil est composé de 20 membres, des personnalités issues de la société civile, de 16 nationalités et sans lien avec Facebook. La plus connue, c'est Helle Thorning-Schmidt, ancienne première ministre du Danemark. À ses côtés, on trouve des avocats, des professeurs de droit constitutionnel, des spécialistes d'Internet et même un prix Nobel de la paix. Le cas Trump est le premier gros dossier de ce conseil de surveillance. Depuis son entrée en fonction en janvier, il a rendu 8 décisions sur des publications supprimées par Facebook et 6 fois ses membres ont déjugé le réseau social. Aujourd'hui, il se prononce pour la première fois sur un compte suspendu et Facebook sera obligé de suivre la décision du conseil.
Clément Le Saffre, spécialiste tech d'Europe 1.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Il est 5h10.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports avec à la une, le PSG, c'est fini pour le PSG en Ligue des Champions.
Oui, pas de deuxième finale d'affilée pour les Parisiens. Logiquement battu hier soir 2-0 avec un doublé de Mahrez sur le terrain de Manchester City. C'était une demi-finale retour de Ligue des Champions. Un PSG brouillon et fébrile, nous explique Jimmy Algerino, ancien joueur parisien et invité de Lionel Rousseau hier soir.
Sportivement, atteindre le dernier carré... ça reste quand même une belle performance. Le club peut en sortir la tête haute. Après, effectivement, ça aurait été beaucoup plus prenant que l'équipe sur le terrain montre un autre visage. Alors effectivement, on peut avoir de la frustration, il peut y avoir de la déception. Mais ce qu'ont montré les joueurs en cette deuxième mi-temps n'est pas digne. Alors tout à l'heure, Philippe parlait que Manchester a passé un cap. De la maturité, il manque ça au Paris Saint-Germain.
Manque de maturité, manque de réussite également, pas un seul tir cadré par les joueurs du PSG, privé il est vrai de Kylian Mbappé, et surtout c'est la première fois en 5 ans que Paris ne marque pas à l'extérieur en Ligue des Champions. La dernière fois c'était en 2016 et déjà contre City.
Alors qui rejoindra Manchester City en finale? Le Real de Zidane ou bien Chelsea de Thomas Tuchel?
À l'aller il y avait eu un partout à Madrid et Zinedine Zidane, l'entraîneur madrilène, veut y croire.
C'est notre match et notre idée de toute façon c'est toujours de rectifier le tir par rapport à un premier match, surtout leur qualité, quoi. Enfin, voilà, donc on va essayer de remédier sur ça, surtout défensivement être bien plus agressif, et après avec le ballon, de toute façon, montrer ce qu'on est capable de faire, parce qu'on est capable de faire de belles choses nous aussi, c'est plus important quand même de faire de bonnes choses avec le ballon aussi.
Zinedine Zidane avec Henri de Laguérie. Et puis des nouvelles de José Mourinho. Il entraînera l'AS Rome la saison prochaine après avoir dirigé l'Inter Milan il y a 11 ans. Joli coup de Mourinho puisqu'en plus Tottenham vient de le limoger et continuera à le payer jusqu'en 2022.
Le reste de l'actualité et le sport du quotidien. De plus en plus de joggeurs, le running est plébiscité d'après une étude.
12% de joggeurs en plus d'un an. C'est l'effet confinement, la crise sanitaire, les privations de liberté ont servi d'éléments déclencheurs et ça a perduré. Virgile Caillé est délégué général de l'Union Sport et Cycle.
On avait quand même une inquiétude parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de courses sur route qui étaient annulées. C'est près de 80% des courses qui ont été annulées en 2020. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a eu une augmentation des coureurs qui est quand même significative. On est à plus d'un million de coureurs en plus et des néo-coureurs qui sont plutôt jeunes, plutôt féminins. Ce sont des gens qui, évidemment, ont été guidés vers la pratique en raison des restrictions sanitaires. Et le running était probablement la pratique la plus aisée, celle qui permettait enfin de sortir un petit peu de chez soi et de retrouver un peu de liberté.
Virgile Caillé avec Axel May. Autre course, la Formule 1. Finalement, il y aura du public étranger au Grand Prix de Monaco le week-end du 22 mai. Un test PCR serait exigé pour toute présence sur le rocher.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de joggeurs pendant le confinement.
Oui, moi j'aurais plutôt acheté un chien, j'aurais préféré. Mais bon, chacun son choix.
C'était un motif sur l'attestation, ça permettait d'aller prendre l'air.
Exactement.
Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de salle de sport, c'est un peu compliqué. C'est quand même le sport le plus facile autour de chez soi.
Exactement.
Lénaïque Monnier pour les sports, 5h13.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Fontainebleau. Et mon pari gagnant sera le 207, Noël. Ce n'est pas une championne, mais voilà une pouliche sur laquelle on peut toujours compter et qui traverse une grande période de forme. Maniable et capable d'adopter toutes les tactiques, et ayant déjà bien couru sur cette ligne droite, elle s'annonce vraiment difficile à battre. Alors notez bien, pour cet après-midi à Fontainebleau, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 7, Noël.
C'est noté Thierry Léger, on vous retrouve tout à l'heure pour les pronostics du Quintet. Il est 5h14. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. On va tranquillement ouvrir les journaux comme chaque matin. C'est notre pressing avec les histoires que nous repérons dans la presse. Amblin, qu'est-ce que vous avez lu ?
Certaines races de petits chiens très à la mode attirent les convoitises et les voleurs sans scrupules iront jusqu'à agresser leur maître dans la rue pour s'en emparer. Chihuahua, petits bulldogs, spitz, nains qui se revendent à prix d'or.
Ça devient des biens de luxe.
De luxe, exactement.
Se volent.
Petite fortune.
On en parle dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. 5h15 sur Europe 1, l'apaisement chez les Républicains. Renaud Muselier, le président sortant de la région PACA, garde finalement le soutien du parti de la droite pour les élections du mois de juin, à condition qu'il n'y ait aucun accord avec La République En Marche. Sauf que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, assure lui qu'il y aura bien des candidats marcheurs sur cette liste. On comprend que l'histoire n'est pas finie. La préfecture du Finistère dénonce des manquements graves aux règles de protection animale après la diffusion d'images de mauvais traitements infligés à des truies dans l'abattoir de Briec, dans le Finistère. Aux États-Unis, un vaccin et une promotion sur ces courses, hypothèse sur laquelle travaille Joe Biden avec les chaînes de supermarchés pour inciter plus d'Américains à se faire vacciner.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche. Et Martin Lange, on commence par un coup d'œil aux unes de vos journaux. Avec d'abord la fin d'un rêve, c'est le titre du Parisien, l'image de Neymar. La main recouvrant son visage après la défaite du PSG en Ligue des Champions. The End, c'est la une de l'équipe ce matin. L'autre grand titre, c'est cette question, faut-il célébrer Napoléon ? Question posée à la une de la Dépêche du Midi, bicentenaire de la mort de Bonaparte. Macron cherche le ton juste, écrit le Figaro. Ni hagiographie, ni repentance dans le discours que le président doit prononcer aujourd'hui. C'est un exercice périlleux, commente l'opinion, qui est titre « Macron face au pire de Napoléon », notamment l'esclavage. Commémorer n'est pas forcément célébrer, résume Ouest France. Napoléon, qui est à la une de nombre de vos journaux un peu partout en France, comme Le Républicain, Lorrain, ou encore L'Union à Reims, 200 ans de passion. Enfin, déconfinement à la une et enfin des réservations dans les trains, dans les hôtels, dans les restaurants. Les demandes affluent, se réjouit Nice Matin à l'approche de la date du 19 mai. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention Amblin, on commence donc avec vous. Et ces chiens qui se vendent à prix d'or.
Oui, rappelez-vous, c'était fin février. Deux des trois bulldogs français de la chanteuse Lady Gaga avaient été volés. Celui qui les promenait avait même été blessé par balle pendant l'agression. Eh bien, on apprend sur le site leparisien.fr que certains petits chiens sont de plus en plus prisés des voleurs qui chercheront ensuite à les revendre, des bulldogs français, des spitz nains, ces petites boules de poils blancs ou tout roux, des chihuahuas, des petits staffies très à la mode et dont les prix de vente s'envolent. Laisser son chien devant un magasin, c'est comme laisser traîner une liasse de 500 euros en espérant le retrouver en sortant. C'est ce
ah
que
oui,
dit
à ce point-là.
Ouais, un bénévole d'une association de protection animale. Et parfois, la présence du maître ne va pas décourager les voleurs. Ou la présence d'un promeneur pour chien, hein, qui n'hésiteront pas, les voleurs, à agresser la personne au bout de la laisse, comme cette jeune femme qui s'est fait arracher son bull terrier de 6 mois par deux hommes à scooter, ou cette autre maîtresse qui est allée jusqu'à se faire gazer, jusqu'à se faire frapper. Son American Bully lui a disparu. Alors depuis, il a été retrouvé dans un appartement à 200 km de là, avec d'autres animaux dans des conditions immondes. Tous ces chiens étaient destinés à être revendus jusqu'à 3000 euros chacun. Voilà, vol à l'arraché.
Mais aussi, il y a un marché noir des chiens de race comme ça.
Sur Internet, exactement. Ces chiens peluches sont particulièrement recherchés et donc ils valent une petite fortune. Une portée de spitz nains. Les spitz nains, c'est ces petits chiens. C'est tout petit, c'est tout mignon.
Et c'est des petites peluches blanches.
Ouais,
c'est
la portée, c'est 10 000 euros quand même. Donc forcément, il y a un marché. Alors certaines histoires se terminent bien, souvent grâce à la solidarité sur les réseaux sociaux. Les messages sont relayés, les animaux retrouvés sains et saufs, les voleurs incarcérés. D'ailleurs, concernant Lady Gaga, elle a retrouvé depuis ses bulldogs. Hein, et il y a quelques jours, 5 personnes ont été arrêtées. Alors si vous souhaitez adopter un chiot, leparisien.fr prodigue quelques conseils pour s'assurer que le vendeur est sérieux, que le chien n'a pas été volé. Par exemple, l'annonce doit répondre à des critères précis, c'est-à-dire l'âge, le numéro de puce et le numéro de sirène, un numéro qui permet d'identifier l'éleveur auprès de l'administration. Voilà, il y a quand même quelques points à vérifier avant d'acheter un chiot sur Internet, surtout aux 3000 ou 4000 euros.
Sinon, il faut choisir un chien de garde, comme ça il sait se défendre.
Voilà.
En cas d'attaque.
Voilà, ou un chat. Pas de problème pour les chats.
C'est autre chose. Possible.
Il y a peut-être des vols de chats aussi, on ne sait pas.
Oui,
mais bah, c'est compliqué quand même. on va aller en Égypte à présent. Au moment où, vous le savez, la France vend au Caire 30 avions Rafale et assume sa coopération militaire avec le maréchal Al-Sissi. Bien voilà, une nouvelle question portant sur les droits humains qui n'est pas du meilleur effet. C'est La Croix qui pointe ce matin que l'Égypte projette de mettre les femmes sous tutelle. Projet qui suscite l'indignation des organisations féministes. C'est un projet de réforme du code de la famille qui menace, selon elle, de renvoyer les Égyptiennes un siècle en arrière. Alors si ce texte est validé et est voté, il a déjà été validé en commission parlementaire, une femme ne pourra plus se marier sans l'accord d'un tuteur qui sera signataire avec l'époux du contrat de mariage, son père par exemple. Les femmes chrétiennes pourraient aussi perdre la garde de leurs enfants au profit du père si celui-ci accepte de se convertir à l'islam. Ce texte est un gage accordé aux religieux, explique La Croix, qui sont opposés depuis des années à ce que les affaires familiales soient régies par un code civil. C'est Hosni Moubarak à l'époque qui avait accordé aux Égyptiennes le droit de divorcer. Là, on reviendrait à des règles religieuses extrêmement stricte. Alors les Égyptiennes se mobilisent sur les réseaux sociaux notamment, dernier espace de contestation pour les femmes déjà, des femmes qui étaient déjà engagées dans le mouvement MeToo contre les violences sexuelles, et on sait que c'est aussi un fléau en Égypte. Le maréchal Al-Sissi lui a promis un débat sur le sujet, mais sans donner de calendrier, et peut s'attendre à un revirement. Voilà, vous lirez dans La Croix aujourd'hui, l'Égypte qui projette de mettre les femmes sous tutelle. Martin, on termine avec vous et avec une super mamie.
Exactement, une mamie de 74 ans qui rêve de gagner un dernier match de tennis professionnel. Alors elle est américaine, elle s'appelle Gail Falkenberg et c'est le site du journal L'Équipe qui nous la présente. Parce que lundi, elle a affronté une jeune française au premier tour du tournoi de Naples. C'est en Floride, hein, pas en Italie. Résultat, défaite 6-0-6-0, aucun jeu marqué. Mais la grand-mère continue de croire en son rêve, hein, malgré ses lunettes de vue, ses genouillères et ses raquettes sorties tout droit des années 90.
C'est incroyable. Comment est-ce possible qu'elle puisse jouer sur le circuit pro à cet âge-là, 74 ans.
Eh bien, figurez-vous que la jeune Française qu'elle affrontait hein, s'est posé la même question. Gaëlle est en fait une habituée du circuit américain. Elle écume les cours depuis près de 60 ans. D'abord dans l'équipe universitaire américaine, aux côtés de la légende Arthur Ashe, hein, dans les années 60. Elle fait une première pause pour se consacrer à son métier, celui de productrice audiovisuelle, mais elle reprend goût à la raquette au milieu des années 80, reprend aussi le fil de sa carrière et atteint son meilleur classement, 360e joueuse mondiale à 40 ans. Elle devient ensuite coach en continuant à jouer quelques tournois, mais en 2003, elle décide de tout arrêter pour s'occuper de sa mère malade.
Et à 56 ans, ça fait déjà une belle carrière.
Et oui, mais elle s'arrête pas là. Depuis 2011, la Super Mamie s'est lancée dans un dernier défi, gagner des matchs sur le circuit pro à plus de 60 ans. Alors ça commence mal, 32 défaites en 32 matchs, mais en 2016, miracle, elle bat une de ses compatriotes, sa dernière victoire à ce jour. Depuis, 23 nouvelles défaites se sont enchaînées, la pandémie s'en est mêlée et Gaëlle a dû s'arrêter, mais l'infatigable, la légende, comme l'appellent ses adversaires, a rejoué lundi. Hein. Elle a quand même marqué deux aces, pas mal sur terre battue, une surface qu'elle n'apprécie pas.
Deux aces à 74 ans.
Voilà, qui peut en dire autant. Et ne lui parlez pas de retraite, hein. Elle ne compte pas s'arrêter tant qu'elle n'aura pas gagné son dernier match.
Mais elle arrive quand même à se qualifier pour ses tournois professionnels.
Elle est invitée.
Parce qu'effectivement, voilà.
Elle n'a pas gagné depuis 2016. Voilà.
Mais bon, ça fait du spectacle. C'est beau. Bon, faut pas qu'elle se fasse mal, faire attention quand même à cette tâche-là. Merci à tous les deux. C'était le pressing du jour. Il est 5h24 sur Europe 1. 5h25, c'est l'heure d'Edouard dans l'assiette sur Europe 1. Bonjour Arnaud Van Damme.
Bonjour.
Vous êtes notre poissonnier à Paris, comment allez-vous?
Ça va bien, très bien, en pleine forme.
Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à Rungis comme tous les matins?
Oui, ça y est, là, je viens de terminer les achats du jour. On a trouvé des beaux produits et là on redémarre sur la boutique pour aller tout installer.
Alors qu'est-ce que vous avez de beau en ce moment?
Alors, ce matin, je vous dis ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé de la belle lotte. Voilà, la lotte ou la baudroie. On commence un petit peu à trouver aussi du beau colin, les premiers merlus, là, c'est un poisson de saison qui arrive. Et j'ai aussi un petit coup de cœur ce matin sur le merlan. Voilà, sur le filet de merlan, parce que c'est un poisson qu'on oublie un petit peu, le merlan. Et voilà, moi, c'est un poisson que j'aime particulièrement. Donc
qu'on fait plutôt frire en général.
Qu'on fait plutôt frire, voilà. Ça a été longtemps un poisson de base que les gens consommaient beaucoup. Et puis on l'a laissé un petit peu, voilà, on l'a un petit peu oublié. Donc c'est poisson vraiment standard à faire à la poêle, très facile à faire, que les enfants adorent en plus.
Ouais. Ouais. Alors je voulais vous poser la question parce qu'on voit souvent des labels sur les poissons, les labels pêche durable par exemple. Est-ce qu'il faut s'y fier? Ça fait vraiment une différence? Qu'est-ce qu'ils nous disent ces labels?
Alors oui, moi je vais vous demander en tant que professionnel de toujours faire attention quand vous achetez votre poisson, à faire attention que ça soit des poissons issus de la pêche durable. Alors la pêche durable, qu'est-ce que c'est? C'est un poisson qui n'est pas menacé, dont son stock n'est pas menacé dans la nature, et aussi la manière dont il est capturé. Voilà, c'est une bonne technique de pêche qui ne va pas abîmer l'environnement ou d'autres espèces. Donc ça, il faut vraiment faire attention quand on est consommateur. C'est un enjeu dans notre profession de favoriser les achats qui sont de produits de la mer qui sont pêchés de façon durable.
Voilà, et vous, sur votre étal, vous n'avez que des poissons pêche durable ou ils ne le sont pas tous?
Non, enfin, moi, je peux me permettre, où je suis dans mon quartier, d'avoir des poissons que de pêche durable. Bah, généralement, c'est des petites techniques de pêche et du petit bateau. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Donc, c'est des poissons qui ont un coût, la plupart du temps. Mais on peut aussi avoir d'autres poissons un petit peu plus standards, un peu plus tout venant, comme on dit, ouais, qui sont quand même ici aussi de pêche durable, parce que les stocks sont assez constant et en quantité dans l'océan.
Voilà, et alors, il faut regarder l'origine aussi, mais alors on ne sait pas toujours quand on achète du poisson d'où ce poisson a été pêché.
Si toutes les zones de pêche sont, on a pour obligation d'afficher les zones de pêche sur nos étiquettes.
D'accord. Donc on essaye de favoriser la pêche française.
Oui. Bah, la pêche française, évidemment, parce que rien d'un point de vue du bilan carbone, quoi, qui sera toujours meilleur qu'un poisson qui vient à l'étranger, mais aussi la pêche artisanale et les pêches intelligentes, on va dire.
Voilà, les pêches intelligentes, de la lotte, du merlan et du colin au menu chez vous dans votre poissonnerie du 16e arrondissement. Arnaud Van Damme, merci beaucoup, à bientôt dans les Dents de l'Assiette.
Merci à vous, bonne journée, au revoir.
Bonne journée à vous, il est 5h29. Laurent Cabrol, quel est le temps de cette journée? Il va faire meilleur?
Ben, la pluie s'en va et comme je le disais tout à l'heure, elle s'en va par le sud. Hein. Ce sont les régions du sud-ouest comme la région Rhône-Alpes également. Ces deux régions seront concernées par encore des pluies ce matin et ensuite eh bien, elles vont cesser de sorte que pratiquement toute la France sera sous un ciel plutôt serein. Certes, il y aura encore des averses sur la moitié nord, peut-être sur la région parisienne, peut-être sur les frontières du nord et du nord-est. Mais enfin, ce sont des averses quand même très éparses. Les températures aujourd'hui, donc sous un ciel omniprésent, marqué par le soleil, les températures vont s'échelonner entre 12 et 22 degrés, 22 à Marseille, 19 à Toulouse, 17 à Bordeaux cet après-midi, 15 à Paris, encore un peu frais, hein, et 12 degrés à Caen, à Saint-Brieuc, à Cherbourg, à Nancy et à Colmar. Des températures certes fraîches, mais qui vont commencer à monter, de sorte qu'en fin de semaine, samedi et dimanche, nous aurons vraiment un temps très chaud dans l'ensemble et même un temps presque estival.
Ah oui, c'est ce que j'ai vu. Il va faire très 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 beau et on aura l'occasion d'en reparler. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Ils n'ont pas fait un match intelligent. Ils sont devenus un peu minables pendant un quart d'heure. Ils avaient une attitude déplorable devant l'Europe entière. Je suis déçu et profondément choqué.
Plus que de la déception, de l'affliction après la demi-finale retour du PSG en Ligue des Champions. Défaite 2-0 sur la pelouse de Manchester City. Les Parisiens sont éliminés. Des discussions aujourd'hui avec les syndicats lycéens. Le ministère de l'Éducation nationale n'exclut pas de nouveaux aménagements pour le bac 2021. Tour d'horizon des pistes envisagées dans un instant. Dans ce journal aussi, désinvesti puis réinvesti, LR soutiendra bien finalement Renaud Muselier pour les régionales en PACA. Et puis, une figure tantôt critiquée, tantôt admirée, 200 ans après sa mort, Napoléon fascine toujours. Nous serons auprès d'un collectionneur biberonné à l'histoire de l'empereur.
Après le journal, la vaccination accélère, mais les plus fragiles sont-ils oubliés? Une personne sur six en France n'utilise pas Internet. La fracture numérique et sociale frein à la vaccination. L'alerte dans 10 minutes de Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le rêve européen du PSG a donc pris fin hier soir. Le club de la capitale, déjà dominé à l'aller, s'est incliné face à Manchester City. Défaite 2-0.
Julien Froment, vous nous avez fait vivre ce match hier soir sur Europe 1. On peut le dire, Paris a sombré face aux joueurs de Pep Guardiola.
Oui, avec cette fameuse 69e minute de jeu, carton rouge pour le milieu de terrain, André Di Maria qui regagne le vestiaire la tête basse. Cette image résume à elle seule le match du Paris Saint-Germain, ou plutôt le non-match. Un rendez-vous manqué avec l'histoire, stérile offensivement, zéro frappe cadrée. Paris a surtout failli mentalement. C'est l'analyse sans concession de notre consultant Giroud.
Ils n'ont pas fait un match intelligent. Ils sont devenus un peu minables pendant un quart d'heure. Ils avaient une attitude déplorable devant l'Europe entière. Vraiment, je suis déçu et profondément choqué. Je retiens mon vocabulaire.
Face à une équipe de Manchester City fidèle à sa philosophie, efficace devant le but, le Paris Saint-Germain n'a pas de regrets à nourrir. Il est tombé sur plus fort que lui. Une déception qui ne doit pas occulter le beau parcours européen de cette saison. Un Paris Saint-Germain installé pour la deuxième année consécutive dans le top 4 des meilleures équipes du vieux continent. Pas sûr toutefois que cela soit suffisant pour consoler les supporters du club de la capitale.
Et on connaîtra ce soir l'adversaire de Manchester City en finale le 29 mai prochain. Le Real Madrid ou Chelsea, les deux clubs avaient fait match nul un partout à l'aller.
Des parents d'élèves dans la rue ce mercredi, des syndicats de lycéens reçus au ministère de l'Éducation nationale. À un mois et demi des premières épreuves du bac, les conditions d'organisation de l'examen pourraient encore bouger.
Oui, c'est ce que réclament d'ailleurs les lycéens et les enseignants. Sur Europe 1, lundi soir, Jean-Michel Blanquer évoquait de possibles aménagements. Lesquels? Revue de détail avec vous, Virginie Riva.
Alors, à ce stade, ce qui semble déjà être retenu pour le grand oral, c'est la possibilité donnée à l'élève de pouvoir présenter une fiche signée de son professeur de spécialité, attestant des points de programme qui n'ont pu être vus en classe, mais aussi des conditions de préparation de l'examen, si l'année a été à moitié en distanciel ou en tout présentiel. Même chose pour les oraux du bac français en première. La fiche serait dans ce cas remplie par le prof de français. C'est l'option la plus simple à organiser. Deuxième proposition, ne préparer qu'une question au grand oral au lieu des deux prévues actuellement. Problème, cela crée quelques contraintes pour la composition des jurys. Autre hypothèse, supprimer la troisième partie du grand oral, celle axée sur le projet professionnel et l'orientation. C'est une proposition du SNES notamment et des organisations lycéennes. Enfin, pour les épreuves écrites de français et de philo, l'idée serait de les maintenir en l'état, mais si l'élève obtient une note inférieure à sa moyenne de contrôle continu, c'est la meilleure note qui est retenue.
Une précision signée Virginie Riva pour Europe 1. Le gouvernement qui planche aussi sur la vaccination. Deux enjeux évoqués hier par Jean Castex devant les députés de la majorité. Aller chercher les réticents, 115 millions de personnes prioritaires qui n'ont pas encore reçu leur première dose, et progresser sur les injections de l'AstraZeneca. Une opération de communication devrait être lancée dans les prochains jours.
Mais sur l'AstraZeneca, d'ailleurs, le gouvernement a saisi la Haute Autorité de Santé pour ne plus réserver le vaccin qu'aux seuls adultes de plus de 55 ans. L'idée serait d'autoriser les injections à des personnes volontaires, plus jeunes, qui signeraient une décharge. Signe Victor Delande que le gouvernement compte bien sur ce vaccin pour atteindre les 20 millions de vaccinés à la mi-mai.
Oui, sauf que la défiance des Français pour le vaccin AstraZeneca existe bel et bien. Depuis le week-end dernier, il n'y a plus que 27 000 injections de ce vaccin par jour, contre 75 000 il y a encore deux semaines. Une défiance qui tombe au plus mauvais des moments puisque la France vient de recevoir un stock de 2 millions de doses. Et pour les écouler, le gouvernement imagine toutes les possibilités. Mais pour Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, cette idée de décharge n'est vraiment pas la bonne.
On est vraiment très surpris que le gouvernement propose de demander aux patients de signer une décharge parce que en fait c'est dégager l'État de ses responsabilités et ça m'étonnerait que cette proposition aille au bout.
Selon nos informations, la Haute Autorité de Santé ne se prononcera pas sur cette possibilité de décharge pour les patients, mais elle pourra peut-être élargir la vaccination avec AstraZeneca au moins de 55 ans. Il faudra d'abord que l'instance s'appuie sur des données scientifiques solides. Et si la HAS allait dans ce sens, l'idée serait aussi d'informer davantage les patients sur les risques, même minimes, du vaccin AstraZeneca.
Et aux États-Unis aussi, l'enjeu de la vaccination imposé hier par le président Joe Biden qui vise 70% des adultes vaccinés d'ici la fête nationale du 4 juillet. Le président américain qui dit vouloir rendre plus accessible le vaccin dans les zones reculées et encourager les éventuels réticents en garantissant des promotions dans des magasins ou pour des matchs de sport.
Oui, c'est récompense contre vaccination aux États-Unis. 5h36 sur Europe 1. La fin du feuilleton. Renaud Muselier sera finalement bien le candidat des Républicains pour les régionales en PACA.
Le candidat sortant qui s'est engagé à ne faire figurer aucun élu ou ministre marcheur sur sa liste, tout en promettant d'œuvrer au rassemblement le plus large possible. Les Républicains, en tout cas, ont opté pour le soutien plutôt que la sanction à Hélène Terzian.
Oui, ni exclusion, ni liste concurrente. Renaud Muselier sort la tête de l'eau. Pourtant, il a dû affronter la tempête. Je sais qu'ici, je n'ai pas que des amis, lâche-t-il devant les instances du parti. Il donne donc des gages et leur répète qu'il n'y aura sur sa liste ni parlementaire, ni ministre LREM.
Aujourd'hui, il y a une clarification totale dans ma famille politique, dans le cadre de la ligne politique, et qui fait en sorte que je vais essayer d'avoir le rassemblement le plus large possible pour appliquer mon projet, sachant que quand même, depuis dimanche, les turbulences sont fortes. Je pense que le grand vainqueur, c'est la clarification.
C'est aussi la victoire en coulisses de deux artisans, deux chiraciens comme lui, François Baroin et Christian Jacob. C'est là, confie Renaud Muselier, que l'on reconnaît de vrais amis. Christian Jacob, qui dit-on, n'en dormait plus la nuit, savoure sa revanche.
C'est un accord d'une famille rassemblée. La République En Marche a démontré sa faiblesse. Ils sont incapables de constituer une liste, uniquement capables de manœuvres et de nuisances.
Allusion à l'alliance LR-LREM annoncée par Jean Castex, texte raillé par le sénateur LR Pierre Charron.
Il y en a un qui, à mon avis, a du souci à se faire, c'est le Premier ministre, parce que être cocu, c'est une chose, mais payer la chambre, c'est pire encore.
Reste que la blessure au sein du parti est profonde. Un député LR confie, ça ne va pas cicatriser du jour au lendemain.
Le projet de loi climat adopté à l'Assemblée hier soir grâce à la seule majorité gauche et écologiste dénonçant les insuffisances du texte. Insuffisant, c'est aussi ce que reproche l'ONG Zero Waste au décret relatif à la réduction des emballages plastiques. Il y est question de tendre vers le recyclage et la suppression à 100% des emballages plastiques à usage unique d'ici 2025. Simples incantations sans contrôle ni sanction pour l'association.
Commémorer, mais pas célébrer. Emmanuel Macron sur une ligne de crête à l'occasion du 200e anniversaire de la mort de Napoléon.
Cérémonie cet après-midi à l'Institut de France et aux Invalides. L'empereur, critiqué notamment pour avoir rétabli l'esclavage, continue malgré tout de fasciner. Reportage auprès d'un collectionneur du Tarn rencontré par Benjamin Péter.
Il est partout, lui, son génie et les hommes qui ont forgé tout ça.
Des bustes, des cartes, des armes d'époque, des soldats de plomb chez Xavier Pérez, sur les murs, sur la cheminée, dans les placards, tout renvoie à Napoléon.
Pour moi, c'est le plus grand génie que la Terre ait jamais porté. Avec ses défauts, c'est pas un saint. Mais c'est un gars qui parle de rien, à peine français. Et en 15 ans, il devient général, empereur. C'est époustouflant.
Il faut dire que Xavier descend d'un officier de la garde impériale, dont le portrait, aux yeux clairs, trône dans son salon.
Alors là, voilà mon ancêtre Hippolyte, Thomas. Déjà tout petit, moi, quand j'allais chez mon grand-père, j'avais ce portrait. Il y avait un temple napoléonien chez mon grand-père. On ne disait pas Napoléon, sinon on prenait une claque, il fallait dire l'empereur. Ça, c'est un sabre à l'oriental. C'est des lames très courbes. Ça, c'était à lui.
D'abord collectionneur d'objets, Xavier s'est ensuite passionné pour la reconstitution. Iéna, Austerlitz, Marengo, il a parcouru l'Europe avec son uniforme, le même que son aïeul.
Ça, c'est une tenue d'officier. Moi, je suis lieutenant en reconstitution des chasseurs à cheval de la garde impériale. Et ça, c'est le callback, le couvre-chef en peau d'ours avec les emblèmes de la garde.
Et il regrette qu'on célèbre ce bicentenaire si timidement, lui qui devait initialement défiler à cheval sur les Champs-Élysées. À Seix, dans le Tarn, Benjamin Péter, Europe 1.
Alors, je vous renvoie au podcast Europe 1, Napoléon, cet inconnu qui est sur Europe 1.fr, déjà disponible dans son intégralité. Podcast signé L'Heure d'Autriche, qui sera avec nous à 6h40 tout à l'heure pour nous en faire entendre quelques extraits. C'était le journal de Marion Calais. Il est 5h39. Et place aux courses. Les pronostics du Quintet avec vous, Thierry Léger.
Un quintet qui va se disputer sur les 1100 mètres de la ligne droite de l'hippodrome de Fontainebleau. Et sur ce parcours rectiligne, il faut faire confiance aux spécialistes. Ainsi, Mubaleg, le numéro 1, vainqueur quasiment de bout en bout d'un quintet similaire le 30 mars sur ce tracé, et que je sais encore mieux le matin à l'entraînement, pourrait bien doubler la mise. On lui opposera Red 50, le numéro 5, deuxième à une encolure de mon favori Mubaleg, et qui depuis a confirmé en concluant cinquième, tout près dans un autre quintet le 20 avril sur la ligne droite de Chantilly. Derrière ces deux priorités, je vous recommande Pradaro le numéro 2, qui effectuera une nouvelle fois un long déplacement depuis la Belgique avec de légitimes ambitions, mais aussi Tudobem le numéro 9, souvent placé dans ce style d'épreuve, quel que soit l'état du terrain. Enfin les numéros 13 On The Sea, 6 Big Beat, 4 Excalibur peuvent, comme beaucoup d'autres, compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic, 1, 5, 2, 9, 13, 6 et 4 Excalibur.
Et je précise que le 7 est non partant. Merci à vous Thierry Léger et tous vos pronostics sont sur Europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 5h41 et j'accueille le premier invité de la matinale. Bonjour Pascal Brice.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 ce matin. Vous présidez la Fédération des acteurs de la solidarité qui regroupe 850 structures et associations. La vaccination accélère, nous en parlions dès hier avec des chiffres de prise de rendez-vous qui augmentent fortement sur les plateformes internet comme Doctolib qui sont devenues centrales dans cette campagne de vaccination. Est-ce que pour vous le fait qu'on passe par ces plateformes engendre forcément des inégalités d'accès aux vaccins ?
Oui, bien sûr, c'est une difficulté parmi d'autres pour des personnes qui sont à la rue ou dans des hébergements précaires et que nos associations accueillent. En règle générale, la question de l'accès au numérique, c'est un progrès pour tout le monde, y compris pour les personnes en précarité, mais c'est aussi une difficulté d'accès, et notamment sur cette question de la vaccination qui est centrale pour ces personnes qui sont en particulier à la rue.
C'est la difficulté d'accéder tout simplement à Internet ou la difficulté de savoir l'utiliser, de savoir s'inscrire sur ces plateformes par exemple ?
C'est en fait un cumul de difficultés quand vous êtes à la rue, quand vous êtes dans des hébergements extrêmement précaires. Vous voyez que vous êtes dans des situations où vous êtes déjà aux marges de la société, dans la difficulté, dans l'isolement. Et donc le numérique, l'Internet, c'est une difficulté supplémentaire. Alors même que vous voyez bien que ce sont des personnes qui sont naturellement très exposés au virus, parce que vous voyez bien, à la rue, dans certains hébergements très précaires, il est difficile d'avoir les mesures barrières. Ce sont des gens qui ont souvent déjà des problèmes de santé, et donc la nécessité de vacciner est très forte. Et puis il y a en même temps ces difficultés d'accéder, notamment du fait d'Internet, mais pas seulement. Donc ça suppose un effort des pouvoirs publics et aussi de nos associations pour aller vers ces personnes, les convaincre, parce qu'il faut aussi parfois les convaincre de ça. Vous savez, quand vous êtes dans une multitude de difficultés de tous ordres, des choses vous paraissent parfois un peu lointaines, alors qu'il est tout à fait essentiel qu'elles puissent être vaccinées.
Mais la difficulté d'accéder à Internet, ce n'est pas seulement les personnes qui sont à la rue. J'imagine que ça touche une population plus large que ça.
Oui, on le sait bien, c'est ce que l'on appelle la fracture numérique, c'est un phénomène de génération, c'est un phénomène de territoire, mais c'est aussi un phénomène social. Nous le savons, nous, à la Fédération des acteurs de la solidarité, qui luttons contre la pauvreté, l'un des éléments dans ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont dans la pauvreté, qui ont des droits pour des accompagnements, des aides. Le fait de devoir obligatoirement passer par le numérique, par l'Internet, est souvent une difficulté. Encore une fois, l'Internet, le numérique, c'est un progrès formidable pour tout le monde, y compris pour les personnes en précarité, mais il faut y ajouter une capacité à aller vers les personnes, je le redis, notamment quand elles sont à la rue. Chacune et chacun le voit bien, on voit les uns et les autres des personnes dans ces situations-là, et on imagine bien la quasi-impossibilité pour ces personnes-là d'avoir accès à l'Internet.
Alors il y a quand même des rendez-vous potentiellement pris par téléphone, et notamment via les médecins et les pharmaciens. Il y a quand même ces options-là qui existent aujourd'hui.
Il y a effectivement des dispositifs qui existent, notamment dans les plus grandes de nos associations qui disposent de moyens sanitaires, qui sont en lien avec les centres de vaccination, qui conduisent les personnes vers ces centres de vaccination. Vous avez maraudes de bénévoles, de travailleurs sociaux qui sont au travail pour aider les personnes. Et moi, je fais d'ailleurs une suggestion, parce que vous voyez bien, notamment pour les personnes à la rue, le Johnson, qui est un vaccin avec une seule injection, est une vraie chance. Parce que vous voyez l'immense difficulté de conduire les gens, notamment à la rue, vers la vaccination. Donc ma suggestion, ce serait que les personnes qui sont à la rue, il y a vraiment une priorité pour qu'elles soient vaccinées, qu'elles puissent bénéficier de ce Johnson dès qu'il sera largement en place, assez rapidement, de manière à ce qu'elles puissent avoir accès à une vaccination dans les meilleures conditions possibles.
Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui, selon vous, pour ramener ces populations précaires vers la vaccination ?
Vous savez, c'est une manifestation un peu dramatique, exacerbée en raison de la crise sanitaire, d'une situation plus générale qui est que vous avez là des dizaines, des centaines de milliers de personnes, 100 000, 200 000, qui sont dans l'extrême précarité, dans l'extrême pauvreté. Cela s'ajoute à des situations déjà très tendues, très difficiles pour l'alimentation, pour le logement. On sait que la situation des jeunes est difficile. Alors dans ce contexte-là, il est particulièrement nécessaire que la mobilisation générale se poursuive et notamment que les personnes puissent avoir accès à la vaccination.
Quelles sont les actions que le gouvernement devrait mener et ne mène pas encore aujourd'hui ?
De la part des associations, de notre part, un travail de communication vers les personnes. D'abord en informant, en communiquant, en allant vers les personnes qui sont à la rue, en informant dans les centres d'hébergement, en organisant l'accès depuis les centres d'hébergement vers les centres de vaccination ou depuis à travers les maraudes dans les rues pour les personnes pour qu'elles y accèdent. Donc les associations sont mobilisées, mais il faut aussi que ça devienne très vite une priorité pour les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la vaccination sur les critères d'âge et puis au-delà, parce qu'encore une fois, vous savez, ce sont des gens qui très souvent cumulent des difficultés, notamment sur le plan de la santé, et qui donc ont vraiment un besoin de cette vaccination.
S'agissant des bénévoles qui travaillent dans les associations que vous représentez et qui sont justement au contact des plus précaires, est-ce qu'ils sont considérés aujourd'hui comme les personnels de la deuxième ligne qui ont droit à des créneaux prioritaires pour être vaccinés ?
Alors non. En revanche, moi je me réjouis que le gouvernement ait fait en sorte que les travailleurs sociaux, les professionnels dans les centres d'hébergement soient dans les critères d'âge prioritaires, parce que moi je veux à nouveau les saluer, ces femmes, ces hommes, travailleurs sociaux. Et puis les bénévoles, ça n'est pas le cas, ils sont dans les critères d'âge, mais il y a un élément, vous le savez, important, qui est que nous avons des bénévoles de tous âges, des jeunes, mais aussi nombre de personnes un peu plus âgées, des retraités notamment. Et là, évidemment, le fait que la vaccination se déploie est tout à fait essentiel pour que les bénévoles puissent continuer leur travail, parce que ça a été une difficulté pendant cette crise sanitaire, que les bénévoles, notamment âgés, qui sont nombreux, que je salue à nouveau pour leur action dans nos associations, mais à un moment donné, ont dû souvent se retirer. Là, la vaccination doit permettre de progresser. C'est effectivement, notamment là, tout à fait indispensable qu'elle s'amplifie.
Merci à vous, merci Pascal Brice d'avoir été ce matin l'invité d'Europe 1. Je rappelle que vous présidez la Fédération des acteurs de la solidarité. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Il est 5h47 sur Europe 1 et c'est l'heure de La France bouge. On voyage chaque matin à la recherche des bonnes idées que les Français peuvent avoir un peu partout pour changer le quotidien. Où est-ce qu'on va, Lénaïque Meunier, ce matin ?
Dans les Côtes d'Armor, pour un coup de chapeau à un lycéen, il a créé un clavier d'ordinateur pour les jeunes dyslexiques.
A tout de suite sur Europe 1. 5h49 de l'Institut de France aux Invalides. Emmanuel Macron commémore aujourd'hui le bicentenaire de la mort de Napoléon. L'Élysée promet de regarder en face l'héritage de l'empereur sans rien occulter. Nouvelle plainte et nouvelles images choc dévoilées par L214. L'association de défense des animaux a dévoilé une vidéo montrant des truies brutalisées dans un abattoir du Finistère. Et puis l'élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, défaite hier soir sur la pelouse de Manchester City, 2-0.
Écoutez Le Monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous être utile.
Lénaïque Monnier, direction donc les Côtes d'Armor.
Oui, avec Ryan, il a 16 ans, il est en seconde à Saint-Brieuc et toute sa scolarité à partir du CM2, il a souffert de dyslexie. Les enfants qui ont ce type de trouble ont du mal à suivre une scolarité apaisée et surtout quand ils arrivent dans les grandes classes, prendre des notes rapidement, là ça devient extrêmement compliqué. C'est un casse-tête pour ces ados qui n'osent pas forcément demander aux enseignants de s'arrêter, de prendre un peu plus de temps. Parfois, des dérogations sont accordées pour utiliser un clavier, justement. Mais écouter, taper et assimiler la leçon, c'est parfois très difficile.
Alors, quelle est cette invention? Quelle est l'invention de Ryan?
Alors, avec un ergothérapeute, il a appris la dactylo avec un code couleur, avec des pastilles. Et le lycéen d'expliquer qu'ainsi, l'œil, le cerveau et les doigts ne font plus qu'un. Les couleurs permettent à l'œil d'apprendre à localiser plus vite ce que l'on cherche. Au départ, Ryan avait fabriqué de petites étiquettes colorées qu'il découpait et qu'il collait tout simplement sur son clavier. Et puis, il a pensé à créer un équipement tout entier.
Pas mal. Est-ce que ce clavier est commercialisé?
Alors, c'est en cours. Le jeune homme a déposé un brevet à l'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. C'est un kit de gommettes couleur. Ryan le fabrique avec l'imprimante de la maison, l'imprimante 3D, et il en fait la promotion sur les réseaux sociaux. Il a même monté sa micro-entreprise et il vend chaque kit 10 euros. Il a eu beaucoup d'encouragement sur les réseaux sociaux. Il a déjà des commandes, même qui viennent de Belgique ou bien du Canada. Ses coordonnées, alors, un peu compliqué, mais on mettra tout ça sur le site internet. C'est R comme Ryan, R2D, tool 10. Tool, c'est tool, c'est touche en anglais. 10, c'est comme dyslexie. Et je vous dis que c'est plus facile à lire qu'à écrire. Donc on mettra tout ça sur europe1.fr.
Voilà, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, on va mettre ça. Bravo à lui quand même,
ouais,
Ryan.
16 ans.
16 ans, il suffit d'une bonne idée.
D'une expérience personnelle.
Et effectivement, et ça marche. Et ça donne ce kit de gommettes de couleur. Lénaïque Monnier pour La France bouge, 5h51. Et on va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux ce matin avec vous, Martin Lange.
Oui, ce matin, je vais vous présenter quelqu'un, Sébastien.
Moi, c'est Marc-Antoine, j'ai 25 ans et je suis agriculteur en Picardie. Et je me suis lancé sur TikTok depuis 6 mois maintenant, sous le pseudo agriculteur.
L'agriculteur, exactement. Donc, star de TikTok qui répondait à nos confrères de Combini. Un jeune paysan qui veut dépoussiérer l'image de son métier. Et ça marche, près de 200 000 personnes le suivent sur la plateforme. Il y publie des vidéos très drôles, tout en musique. Alors sur celle-ci, on le voit faire la danse de la pluie en ce moment, en période de sécheresse. Ou encore celle-là...
Bon, ça y est, on en a eu un peu.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et encore celle-là, Marc-Antoine vient de recevoir le tout nouveau klaxon de son tracteur.
Comment ça va envoyer, Tata ? 6 trompettes, 30 sons différents. Ça va bourrer dans les plaines, je te le dis, moi.
Serialier depuis près de 7 ans, il en a 25 maintenant, il a commencé très jeune. Marc-Antoine est un passionné de son métier et il veut transmettre cette passion, montrer qu'on peut être jeune, branché et aimer la terre. Alors il profite de ses moments calmes, par exemple dans son tracteur lorsqu'il sème ses champs, pour faire des lives et répondre aux questions de ses fans.
Il te reste combien d'hectares à semer? Bah écoute, 10 ici et puis encore 3 après. Et après c'est bon. Bon les amis, je vais devoir vous laisser parce que là j'arrive dans les pentes, etc. et je vais avoir fini mon champ.
Merci d'avoir été présent.
Mais l'agriculteur, c'est aussi des coups de gueule, comme sur cette vidéo à propos des décharges sauvages.
Tous les jours maintenant, on retrouve des poubelles dans nos champs. Il faut voir le nombre de gens qui jettent des sachets McDo le long de leurs fenêtres de voiture. C'est honteux. Alors s'il vous plaît, faites un effort, jetez vos déchets chez vous ou à la déchetterie. Merci.
Alors comme Marc-Antoine, ils sont aujourd'hui des dizaines de jeunes agriculteurs à investir TikTok pour montrer la réalité de leur métier. Ils ont même une danse de ralliement, ça s'appelle l'agridance. Ah. Et ils espèrent tous pouvoir venir au Salon de l'Agriculture l'an prochain pour la danser en public.
L'agridance.
Voilà, bon, vous pouvez voir ça sur le compte TikTok de l'agriculteur.
On va aller voir la chorégraphie de cet agriculteur. C'est important aussi de rajeunir l'image des agriculteurs et aussi pour encourager d'autres jeunes à se lancer. On sait que c'est un gros sujet. On va en parler dans quelques secondes, justement aussi avec Fanny Agostini. Merci à vous, Martin Lange, 5h53.
C'était La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
L'histoire du jour de Christophe Ondelat, c'est celle de Lily Rosenberg, survivante de la Shoah. En 1943, Lily Keller Rosenberg a 11 ans et elle est déportée avec sa mère et ses deux petits frères à Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen. C'est l'histoire que vous raconte Christophe Ondelat dans Ondelat raconte à 14h sur Europe 1. Vous pouvez déjà l'écouter sur europe1.fr.
Europe 1.
Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et on va parler de l'installation des jeunes agriculteurs justement dans un instant. À tout de suite. Fanny Agostini est avec nous pour notre planète et des solutions positives chaque matin. Et ce matin, une nouvelle plateforme, Fanny, qui propose des parcelles de terre justement pour permettre aux nouveaux paysans de s'installer.
Cela s'appelle Objectif Terre. C'est le nom de cette plateforme qui s'adresse aux personnes qui recherchent effectivement des terres pour devenir paysans. Lancé en novembre dernier, le site héberge déjà 1200 annonces de vente ou d'achat et il recense plus de 200 000 visiteurs. Il propose surtout des annonces pour de petites surfaces dans l'idée de valoriser l'agriculture durable et paysanne. Ce système a été mis au point par l'association Terre de Liens qui œuvre depuis 18 ans à la préservation du foncier agricole et à la transmission de ces terres dans une logique écologique.
Voilà, et ça permet donc d'accompagner des jeunes, et on sait qu'il en manque pour reprendre les exploitations.
La relève n'est pas du tout assurée dans le secteur agricole. La situation est même très critique. Imaginez-vous, plus de la moitié des agriculteurs ont aujourd'hui plus de 50 ans, alors que le nombre de petites fermes ne cesse de chuter au profit des plus grandes. C'est bien simple, en 2000, la France comptait 277 000 petites fermes et 100 000 de moins en 2016, 16 ans plus tard, alors que parallèlement, les grandes exploitations se sont multipliées. Cet agrandissement n'est pas sans conséquence, il diminue l'emploi du secteur agricole et contribue aussi à l'anémie des sols, puisque les grandes parcelles spécialisées sont plus sujettes à l'érosion. Il est donc urgent de faciliter l'accès de jeunes générations à de petites surfaces avant qu'elles ne soient rachetées par de plus grandes organisations ou qu'elles ne soient artificialisées.
Et il y a d'autres organismes qui sont aussi mobilisés pour assurer cette transmission ?
Tout à fait. À l'origine, c'est la Chambre d'agriculture qui surveille un répertoire national sur les départs et les installations. Au-delà de cet organisme public, de nombreux sites proposent la revente de terres agricoles. Mais la Chambre d'agriculture n'a pas nécessairement vocation à s'assurer que les terres échangées suivent un cahier des charges écologiques. Certaines associations ou coopératives, comme Objectif Terre, s'organisent donc pour acheter collectivement des parcelles en vente pour les transférer vers des paysans qui veulent s'installer dans une démarche durable, respectueuse des sols et des êtres humains.
Voilà, la transmission vers les jeunes agriculteurs, on sait que c'est un enjeu extrêmement important. Merci à vous, Fanny Agostini, Notre Planète.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Presque 6h du matin en ce mercredi 5 mai. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Europe 1 au réveil. Nous sommes le 5 mai 2021. 5 mai 1821, c'était il y a 200 ans. Et c'est ce jour-là qu'à Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte mourait. Alors faut-il commémorer l'empereur ? La question est à la une de l'actualité. Et au-delà du Napoléon des grandes batailles, de l'esclavage ou de tout ce qu'on connaît comme le code civil, on va vous faire découvrir ce matin d'autres facettes du personnage, des histoires dans la grande histoire qui vous sont racontées par Laure d'Autriche dans un podcast Europe 1.
Oublions tout ce que l'on sait déjà et découvrons le vrai Napoléon, un chef d'État qui ne partait pas faire la guerre sans se parfumer des pieds à la tête d'eau de Cologne par souci d'hygiène.
Il mettait ce flacon dans ses bottes.
Voilà, vous allez découvrir un Napoléon obsédé par l'hygiène. Il buvait aussi cette eau de Cologne, il faut le savoir, sur le champ de bataille. Napoléon, cet inconnu, podcast Europe 1 Studio, raconté par Laure d'Autriche. C'est déjà disponible sur europe1.fr en 3 épisodes. Et Laure d'Autriche vient nous voir à 6h40 pour nous le présenter, nous raconter quelques histoires. Et on en écoutera des extraits, c'est tout à l'heure, à 6h40. Allez, on retrouve Laurent Cabrol. Il est presque 5h59, c'est l'heure de la météo. Laurent, c'est à vous.
Nous allons parler de ces pluies qui s'en vont, mais qui s'en vont vraiment à petits pas. Tenez, les départements, j'ai noté les départements, vous voyez, si j'essaie d'être précis. Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne, Aveyron, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Loire, l'Ain, les Alpes, le Rhône, l'Alsace et la Franche-Comté sont les départements marqués par la pluie. Les pluies sont bien souvent là. Elles resteront là encore ce matin. Ensuite, nous aurons des éclaircies et ce sera la fin des intempéries cet après-midi dans toutes ces contrées. Sur la moitié nord, c'est du soleil entre deux nuages et quelques averses. sur la Normandie notamment, sur la région parisienne, la Bourgogne, la Lorraine, prévoyez quelques averses. Et puis un temps agréable sur les côtes atlantiques, de la Bretagne à la région bordelaise et sur le bassin méditerranéen, il y aura beaucoup de vent. Voilà, vous savez tout dans une tendance plutôt à l'amélioration, mais ça ne va pas durer puisque aujourd'hui nous sommes presque dans la période où il ne pleut pas, la période presque ensoleillée, et demain ce sera encore de nouvelles pluies et assez fortes. Bon. Alors 0 à Charleville la température actuelle, il en fait 7 à Paris à l'heure où nous parlons, 11 à Bordeaux et 14 à Marseille. Et dans l'après-midi, entre 13 et 22.
Bon, on va attendre le week-end, quoi.
Alors non, il fera chaud. Hein. Mais ça ne va pas durer.
Ah,
alors, tenez, puisque vous me donnez l'occasion, je vous le dis tout de suite. Samedi, temps magnifique.
Mais
dimanche,
ça ne va pas durer.
Les orages arrivent. Et lundi prochain, c'est le même temps que cette semaine.
À tout à l'heure. Merci à vous, Laurent Cabral.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.